France Inter, 7h.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le lundi 29 avril. Bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, victoire socialiste aux élections législatives en Espagne, mais sans majorité pour gouverner. Le parti d'extrême droite Vox fait son entrée au Parlement. Analyse du scrutin. Depuis Madrid, pardon, après les autres titres, Agnès.
Édouard Philippe ou l'art de l'exécution, le Premier ministre réunit le gouvernement pour concrétiser les annonces du président. De nouvelles révélations embarrassantes pour Boeing dans l'enquête sur les 737 MAX. Être en sécurité dans le métro, c'est un droit que les femmes revendiquent car ce n'est pas automatique. Et puis de jeunes photographes proposent leur vision de l'Europe, c'est au 104 à Paris.
Les invités de France Inter ce matin. Bonjour Karine Bécard.
Bonjour.
À 7h50.
Le diplomate Ghassan Salamé, il vient nous parler de la Libye parce que 8 ans après la mort du dictateur Muammar Kadhafi, rien n'est réglé dans ce pays. Depuis 3 semaines, 2 hommes s'y affrontent. D'un côté le général Haftar, de l'autre le Premier ministre Sarraj. Que fait la communauté internationale et surtout quel jeu joue exactement la France? L'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye est notre invité à 7h50.
A tout à l'heure Karine. 8h20, lui sera présent au séminaire gouvernemental réuni aujourd'hui à Matignon autour d'Edouard Philippe pour mettre en musique les annonces du président de la République. Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche, est donc l'invité du grand entretien tout à l'heure. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter.
Quelles alliances pour gouverner? C'est la question que se posent ce matin les socialistes espagnols qui ont donc remporté hier les élections législatives, mais sans majorité suffisante. 123 sièges pour le PSOE, qui pourra faire alliance avec le parti d'extrême-gauche Podemos et ses 42 sièges. Mais cela ne suffira toujours pas pour avoir une majorité. Reste donc une possible alliance avec les partis indépendantistes catalans. Le président du gouvernement sortant, Pedro Sanchez, va devoir trouver des solutions dans les jours qui viennent, mais en attendant, les socialistes ont savouré leur victoire hier soir. Marilène Ballestero est à Madrid pour France Inter.
C'était l'euphorie hier soir au QG du Parti Socialiste Espagnol. D'une part car cela faisait 11 ans que la formation ne remportait pas les élections législatives. Mais surtout parce que les trois formations de droite, dont Vox, n'ont pas obtenu la majorité absolue et ne pourront donc pas gouverner. Les socialistes, comme Tino, sont soulagés.
Je suis content que le peuple espagnol, dans des moments historiques, sache toujours pour qui voter. Nous habitons près de Tolède, le Parti Populaire gagne toujours là-bas, mais là c'est le PSOE qui a cartonné. Les électeurs sont très intelligents.
La montée de Vox était omniprésente dans les meetings socialistes, ce qui explique entre autres la forte participation hier. José Manuel craignait que Vox obtienne un meilleur résultat.
On avait très peur qu'il gagne du terrain, mais on a montré ce qu'on ne veut pas. Et ce qu'on ne veut pas, c'est ce qui s'est produit il y a 50 ans.
Les socialistes peuvent respirer et regarder vers l'avenir, comme l'explique Carmen.
Ça fait 32 ans que je milite au PSOE et je me sens euphorique parce que mes enfants vont avoir une vie digne. Et c'est ce pourquoi nous avons lutté, mon mari et moi, avec tant d'autres.
Après la fête, place aux négociations car le PSOE n'a pas de majorité absolue et va donc devoir nouer des alliances. Madrid, Marie-Hélène Ballestero, France Inter.
Le parti d'extrême droite Vox entre effectivement au cortège national avec 24 sièges, insuffisants pour peser réellement dans les décisions. Et puis à noter également l'élection de 5 députés indépendantistes catalans actuellement en prison.
Il est 7h04, Agnès. Édouard Philippe à la manœuvre pour un séminaire gouvernemental post-grand débat.
Rendez-vous à 9h à Matignon où le gouvernement au grand complet va donc devoir plancher sur l'application concrète des 22 réformes annoncées par le chef de l'État jeudi dernier. Dans l'après-midi, des cadres de la majorité, président de groupe à l'Assemblée et au Sénat, président de commission, seront invités à participer à des ateliers pour parler fiscalité, retraite, fonction publique ou éducation, quitte Cyril Gradiani à bousculer le calendrier législatif.
La formule se veut inédite selon l'Élysée. Gouvernement, majorité, main dans la main pour mettre en musique la partition d'Emmanuel Macron qui va surveiller ça de très près. Le président veut aller très vite. Il souhaite que des résultats concrets soient perceptibles par les Français. Il a chargé son Premier ministre d'apporter les précisions sur les priorités. Notamment, quel nouvel acte de décentralisation pour tenter de retisser le lien avec les élus et lutter contre la fracture territoriale? Autre question, le président a promis une baisse d'impôts de 5 milliards d'euros. 15 millions de foyers seront concernés selon Bercy, mais qui pourra vraiment en bénéficier? D'ici l'été, il risque d'y avoir embouteillage au Parlement et donc télescopage de ces mesures post-gilets jaunes avec des réformes d'ores et déjà prévues à l'agenda. On pense à la loi bioéthique et la PMA, à la réforme de l'audiovisuel ou encore à la dépendance. Hier, Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, l'a reconnu dans le JDD. Il y aura forcément des textes qui sont déjà dans les tuyaux et que l'on devra repousser.
Allez vite pour répondre aux attentes des Français. Allez vite aussi pour reconstruire Notre-Dame. Le délai de 5 ans fixé par le chef de l'État pour restaurer la cathédrale suscite toujours beaucoup de questions. 2 semaines après l'incendie, 1170 savants, experts, architectes du patrimoine ou professeurs d'université signent une tribune dans le Figaro pour demander au chef de l'État de prendre le temps. Parmi ses signataires, Alexandre Gady, il est professeur d'histoire de l'art à la Sorbonne. Bonne est présidente de l'association Sites et Monuments.
Il y a une disproportion telle entre ce qui s'est passé, même si on est tous bouleversés, et le modus operandi mis en place par le gouvernement, loi d'exception, création d'un établissement public alors que ça pullule déjà au ministère de la Culture, promesse d'un concours international qui naturellement a permis à toutes sortes d'architectes en mal de célébrité de se faire mousser sur le dos de la cathédrale alors qu'elle était encore en train de fumer. Tout ça, ça ne peut pas être considéré par des experts qui travaillent tout le temps sur le patrimoine comme quelque chose de normal. Ce qui est important, c'est Notre-Dame. C'est ni Monsieur Macron, ni les Jeux Olympiques. Il n'est pas question de se donner des délais et certainement pas de donner une date fixe comme ça a été fait. Il faut que le monument soit restauré avec dignité, un peu de sensibilité et un peu d'amour.
Une propos recueillie par Benjamin Mathieu et la tribune est à lire ce matin dans le Figaro. Le gouvernement qui tente également de répondre au malaise des policiers, 28 suicides depuis le début de l'année. Le ministère de l'Intérieur doit lancer aujourd'hui une cellule alerte prévention suicide. Nous y reviendrons dans le journal de 8h.
7h07, de nouvelles révélations, Agnès, dans l'enquête sur le crash des Boeing 737 MAX.
Des inspecteurs américains de l'Agence fédérale de l'aviation avaient envisagé dès l'an dernier de clouer au sol une partie de ce type d'appareil après avoir appris que Boeing avait choisi de rendre optionnel et payant le signal d'alerte lumineux avertissant les pilotes de possibles dysfonctionnements du système anti-décrochage. Le système avait finalement été réactivé, mais Loïc Loury, pour une seule compagnie.
Les appareils en question appartiennent à la South Airlines, une compagnie aérienne qui s'est inquiétée suite au premier crash en octobre dernier. Ses dirigeants demandent alors à Boeing de réactiver un signal d'alerte couplé au MCAS, ce fameux logiciel d'aide au pilotage mis en cause dans les deux catastrophes. Pour les inspecteurs qui suivent la South Airlines, c'est une surprise. Ce signal d'alerte n'était donc qu'une option payante proposée par Boeing. Ni la compagnie, ni ses pilotes ne s'en étaient rendus compte. Mais les discussions en resteront là et l'information surtout ne remontera pas jusqu'aux instances de l'agence fédérale. Pour le régulateur, cette énième révélation est donc très embarrassante en soulignant sa grande proximité avec Boeing et les failles de ses processus de certification. La crise du 737 MAX est loin d'être terminée. New York, Loïc Loury, France Inter.
Les 737 MAX d'Ethiopian Airlines et de Lion Air qui se sont écrasés n'étaient pas équipés de ce système d'alerte et aujourd'hui, tous les 737 MAX dans le monde sont cloués au sol. 20 ans après la guerre dans les Balkans, les tensions restent vives entre la Serbie et le Kosovo. Alors comment réconcilier les ennemis d'hier? Fort de leur expérience, l'Allemagne et la France organisent aujourd'hui à Berlin un sommet des Balkans. Retour en France avec l'action en justice entamée contre la RATP. Une femme a en effet décidé d'attaquer la régie des transports en responsabilité civile après avoir subi une nouvelle agression. Le mot dièse balance ton métro, relayé depuis plusieurs jours. Les témoignages sur des agressions subies dans les transports en commun parisiens. Des agressions, Béatrice Duguay, qui restent très fréquentes.
Ce constat, même les hommes commencent à le faire.
Ma compagne, quelqu'un est venu lui mettre une main aux fesses à 6h du matin sur les quais du métro et depuis elle ne prend plus le métro auto. Et moi, je m'en rends compte le matin quand je prends le métro avant 6h30, il y a très peu de femmes.
Myriam, proche des effrontés, vit pire depuis qu'elle est adolescente.
On m'a déjà embrassée de force dans le bus, c'est des mains aux fesses aux heures de pointe, des mecs qui se frottent la cuisse, des gens qui vous suivent, qui se collent à vous dans le tourniquet juste pour se coller à vous, qui vont vous insulter si vous ne les répondez pas. C'est tout un tas de choses en fait comme ça qui arrivent tout le temps.
D'autres femmes pourraient parler de ces exhibitionnistes qu'elles croisent. Pas simple de surmonter la honte, la solitude de ces moments pour répliquer. Myriam, comme beaucoup d'autres, est contrainte de s'adapter.
Je me dis, ah bah attendez, je remets un pantalon, j'enlève mes talons, je vais changer de chaussures parce que si jamais on me suit, je veux pouvoir marcher plus vite. C'est à nous d'adapter notre tenue, de pas sortir après une certaine heure, comme si l'espace public, en fait, il appartenait que aux hommes à partir d'une certaine heure. C'est à eux qu'on doit dire, n'agresse personne, n'agresse pas les femmes. C'est pas à nous de créer des stratégies pour ne pas être agressée.
Pour que ça change, une plainte contre la RATP vient d'être déposée. Elle ne doit plus minimiser ses agressions, dit Louise Dubray, psychologue et membre des effrontés.
Ce qu'on demande à la RATP, c'est de former ses des agents, et aussi de dédier une ligne qui serait uniquement réservée à cette problématique-là.
Jusque-là, la RATP se borne à renvoyer les victimes vers la police.
Reportage signé Béatrice Duguay. Vous vous êtes sans doute déjà posé la question, faut-il mettre à recycler les petits bouts d'aluminium et notamment les fameuses capsules de café? Eh bien oui, en théorie, puisque l'aluminium est recyclable à l'infini, mais pas toujours en pratique, car seule une trentaine de sites sont capables de le faire aujourd'hui. Lisa Guyenne s'est rendue dans l'un de ces centres, à Nanterre, près de Paris. Reportage.
C'est ici qu'arrive chaque année le contenu des poubelles jaunes de plus d'1 200 000 franciliens. Les déchets arrivent sur les chaînes de tri et c'est là que les petits aluminiums sont écartés du recyclage.
Tous les matériaux qui font moins de 70 mm tombent dans cette maille et se retrouvent dans la catégorie des refus, c'est-à-dire ce qui ne sera pas recyclé.
Cyril Derouet est ingénieur à la SICTOM, le gestionnaire du centre de tri.
Mais avant ça, les refus passent au niveau d'un courant de Foucault, ce qui permet de récupérer les petits aluminiums.
Le courant de Foucault, c'est le procédé qui permet de séparer l'aluminium des autres déchets. L'aluminium tombe alors dans un bac spécifique pour le recyclage.
Donc vous avez des canettes de bière, des canettes de boissons de soda. Vous pouvez avoir également du papier aluminium, vous pouvez avoir des petits aérosols aussi.
Sans oublier les capsules de café inventées par le célèbre Nespresso, souvent décrié par les défenseurs de l'environnement. Ce même Nespresso qui a justement financé les 150 000 euros de la machine à courant de Foucault. Question d'image, explique Hélène Coubeau, responsable communication de la marque.
Quand on a un matériau recyclable, il faut tout faire pour qu'il soit effectivement recyclé. C'est la responsabilité d'une entreprise et quand on est leader sur son marché, on a besoin d'être exemplaire. C'est très important pour l'avenir.
L'an dernier, le centre de tri de Nanterre a permis de recycler 75 tonnes de petit aluminium.
Un reportage à retrouver sur franceinter.fr. Question d'écologie justement, mais aussi d'identité, de territoire, d'avenir, des questions que se posent de jeunes photographes européens réunis dans le cadre du festival Circulation qui se déroule en ce moment au 104 à Paris. Une autre façon de voir l'Europe, Isabelle Pasquier.
Pour dénoncer le repli identitaire en Europe, Ruben Martin de Lucas, un jeune artiste espagnol, s'est carrément photographié tout seul dans des micro-états éphémères de 100 mètres carrés. Alors on le voit tout seul, au milieu par exemple de l'océan ou dans le désert, avec des frontières ridicules. François Cheval est le directeur artistique de Circulation.
Ce qu'on a voulu faire cette année à Circulation, des gens qui racontent des histoires qui sont les nôtres d'un continent en crise, qui produisent aujourd'hui des images pour nous rendre un peu moins ignorants.
Plus inquiétante, les photos d'archives d'une ancienne base nucléaire américaine installée au pôle Nord pendant la guerre froide à Thulé, le village inuit des rois de Thulé de l'ethnographe Jean Mallory. Anastasia Mityukova, une jeune photographe suisse d'origine russe, signe ce travail documentaire qui lui a déjà valu un prix.
Tous les déchets qui ont été produits sur place ont été abandonnés. Des déchets chimiques, des déchets nucléaires. Et avec le réchauffement climatique, c'est en train de sortir. Et ils vont dégrader en fait l'écosystème local où habitent des Inuits qui n'ont jamais eu de mot à dire sur cette histoire en fait.
Enfin, un jeune artiste ukrainien, Maxime Finogev, expose les photos de candidats à un concours de mannequinat. Ce sont les candidats qui ont été refusés et qu'il imprime sur des serviettes papier jetables, forte métaphore de l'exclusion des corps et des vies jetables.
Un festival Circulation est à découvrir donc jusqu'au 30 juin au 104 à Paris.
Merci Agnès Soubiran.